Congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach. Un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Tu peux recommencer, on t'a pas entendu.
Vous êtes sur Cannabis Circus sur Radio Canusson de Pas-de-Bail-Hertz en direct, forcément. Et donc nous allons vous
parler... Et on t'entend toujours pas, en fait.
Et nous allons vous parler de l'émission du
cirque. Ah voilà, ça va mieux là.
De l'émission donc proposée par le cirque, la revue de presse quotidienne.
Non, hebdomadaire.
Hebdomadaire, oui.
Je savais pas qu'il venait tous les jours, tu m'avais pas dit.
Ouais, je m'en étais même pas aperçu. On va vous parler de plein de petites choses nouvelles, avec un suspense terrible au Sénat, où une proposition de loi proposée par Ben Bassa, une sénatrice verte, quoi, de EELV, hein, soyons, va être présentée pour la légalisation du cannabis, un projet très ambitieux d'ailleurs...
qui a déjà fait l'objet d'un rejet par le Sénat, donc il n'y a pas de suspense.
Voilà, mais il n'y a pas trop de suspense, mais bon, il passe quand même dans deux jours, ils vont encore voter là-dessus. Voilà, après, ben, on va vous parler de... Ben, ça fait couler de l'encre, il y a eu Régulation, un article dans Libération qui a été fait par des amis d'Assud, qui est très intéressant. On parlera aussi du cannabis thérapeutique, c'est le Parisien qui revient là-dessus. On parlera aussi de Chambre et Liberté, hein, des collègues cannabinophiles en tout cas, qui ont travaillé eux sur trois scénarios, une dépénalisation, la légalisation étatisée et une légalisation avec mise en concurrence. Voilà, un sujet intéressant, c'est une autre vision, mais c'est forcément dans le... la comparaison qu'on avance. Après, on verra un procès, une affaire assez bizarre où quelqu'un s'est fait arrêter avec 1200 kilos et 500 000 euros de sur lui. Quoi, lui et trois personnes, donc un procès. Le mec, pour l'instant, se mure dans le silence, qui est une défense. Après, on regardera le cannabis aux USA, un petit peu, un article qui fait une analyse assez intéressante. Au Mexique aussi, on ira voir, aussi, parle de légaliser. Ils ont déjà dépénalisé en 2009, et là, ils devraient légaliser. Et ça va sans doute se faire là-bas, contrairement à chez nous. Et enfin, on dira peut-être un petit mot sur l'Indonésie et sur les personnes... qui se font arrêter à cause du chanvre et qui ont été quand même condamnés à mort et exécutés.
Bah oui, l'Indonésie, donc, c'est là où Michael Blanc s'était fait choper à Bali, parce que c'est une des îles de l'Indonésie. Et voilà. C'est pas très étonnant, malheureusement.
Michael Blanc, qui avait d'abord d'ailleurs été condamné à mort, ouais. Sa peine a été commise à perpétuité. Et là, pour l'instant, il est libéré, mais il doit rester en Indonésie.
Voilà. Mais du coup, vu l'élection du nouveau président de la République indonésien et les exécutions, je me demande s'il n'a pas du souci à se faire, en fait.
D'accord.
Voilà. Oui. Bah, ouais. On ne sait jamais, quoi. Enfin,
on ne sait jamais. Bon, peut-être un de ces jours, on vous dira qu'il s'est évadé.
Ah bah, j'espère pour lui.
Voilà un petit peu pour cette revue de presse présentée par le cirque. On reviendra, on le représentera dans l'émission quand on parlera du communiqué de presse fait par nos...
Bah, fait par nous.
Fait par nous, oui.
Oui. Et ben, on va écouter de la musique d'abord et puis on revient juste après. Allez.
Per amare senza mai pensare a sé, solamente a sé,
amarsi poi perché, sempre dando tutta l'anima di sé, e non lo sa perché, amore poi non c'è. Dammi retta se ti dico che cos'è, chiudi è meglio per te, lascia che sia così, anche se il tuo cuore resta lì, guarda in te cosa c'è. Pensi sei il problema che è difficile da capire com'è, ma non vuoi la verità, fai finta che poi male non fa. Lo so, non credi che se tagli è giusto perché hai un cuore dentro te, lascia che così, un'altra storia che finisce qui, pensa a te e credimi, ci sarà ancora amore, sì, lascia che, lascia che, sia così.
De s'écouter Gagliardo, extrait de la compilation Music for Amp avec La Siake Sia Cosi. Excusez-moi pour la prononciation.
Ouais. Et ben, pour la première fois dans Cannabis Circus, un morceau de Varietoche. Voilà, c'est bon, allez, en avant.
Non, mais c'est ça vient d'un disque suisse, non?
Suisse, tout à fait.
Ah,
qui avait été édité pour lors d'un salon.
D'accord. Bon, ben, c'est pas grave.
Pour ma part, j'avais bien aimé.
Bien. Ben oui, il faut pour tous les goûts.
On revient sur le scénar.
Ouais.
Et donc, la proposition de loi d'Esther Benbassa, qui veut autoriser l'usage et la vente contrôlée de cannabis. Car la prohibition ne marche pas, bah ça on le sait depuis un petit moment. Donc elle rappelle qu'il y a plus de entre 1 et 2 millions de consommateurs cannabis en France, bien qu'on ait la législation la plus dure d'Europe. Donc 1 ou 2 millions, on est presque dans les consommateurs réguliers hein, quand même. Si on passe au...
On est,
oui. Oui. Et si on prend en compte tous les consommateurs, on monte à 7, 8, voire plus. Voilà, donc cette vente, donc pas pour le cannabis thérapeutique, hein, c'est vraiment pour le récréatif. Elle concerne la vente au détail et à l'usage. Il y aura un décret du Conseil d'État qui fixerait quand même une limite de THC aux plantes. Et sinon,
le ministère de la Santé.
Oui. Non, c'est le Conseil d'État. Hein. Les teneurs à des fins non thérapeutiques des plantes ou de cannabis seraient vendues et les produits et les caractéristiques seraient définies par un décret en Conseil d'État et dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'excéderait pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé.
Voilà,
donc c'est le ministre de la Santé qui a raison.
Là déjà, oui.
Donc ça va nous en faire encore des décrets et des papiers. Bref.
Non mais. Pff, oui.
De toute manière, c'est ça vrai. Ne se refera pas sans doute. Qu'est-ce qu'il y avait.
Ça ne se fera pas.
Dans cette proposition, il y a des petits trucs intéressants. Donc, interdiction de débit de produits de cannabis autour des établissements scolaires, ça c'est normal. Et des installations sportives, bon. Et aussi, il y aurait dans les collèges et les lycées beaucoup plus, 3 séances annuelles. Sur les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis et aussi des drogues sur la santé. Alors j'espère qu'ils parleront aussi de l'alcool qui a aussi des effets neuropsychiques et comportementaux très importants sur les adolescents et sur tout le monde d'ailleurs. Interdiction du cannabis dans les lieux publics et pas de publicité. Et bien sûr des sanctions pour les gens qui en vendraient à des mineurs.
Donc voilà, ce qui était un peu prévu dans le projet de loi Benbassa, déposé au Sénat l'année dernière, au mois de mars, je crois, mars ou avril.
Et qui va être examiné le 4 février de nouveau au Sénat.
Alors oui, qui va être examiné, mais le Sénat a déjà rejeté le projet de loi.
Oui.
Donc pour la beauté du geste, on va dire, et pour la forme, on va effectivement examiner quand même la requête. Donc ça se passera mercredi. La requête, le projet de loi.
Ouais.
J'avoue que je comprends pas bien pourquoi on examine un projet de loi alors que précédemment on le rejette, mais bon. En tout cas, c'est comme ça que ça va se faire.
Parce qu'il y a quelqu'un qui le représente et donc qui va être réexaminé.
Voilà, donc c'est pour le protocole, on va dire.
Oui. Voilà, mais il me semble qu'il n'était pas passé. C'est la commission qui avait refusé de l'inscrire la première fois, mais au bout d'un moment...
En commission, oui. La commission, le Sénat a rejeté mercredi en commission la proposition de loi.
Mais bon...
Il y a des commissions d'études, en fait, au sein du Sénat ou même de l'Assemblée, hein, qui donnent des avis sur différents projets de loi ou qui... transforme, modifie les projets de loi. Et en tout cas, là, on n'a pas de proposition complémentaire du projet de loi, c'est-à-dire de sénateurs qui disent cet article on ne nous va pas, on le transforme en tel article. Non, là, c'est carrément un rejet. Quoi. Voilà, on ne sait pas à combien ils étaient dans la commission, si c'est un rejet de 9 votes contre 8 ou de 17 votes contre 0, on ne sait pas. Donc voilà, mercredi prochain, il y aura donc un vote au Sénat. Faut savoir que le CIRC a été auditionné par le Sénat le 7 janvier dernier.
Mm-hmm.
Ou devait être auditionné le 7 janvier. Et ça avait été reporté pour la raison qu'on connaît. Hein, le 7 janvier, c'est un jour un peu malheureux. En ce début d'année en France, puisque on sait ce qui s'est passé à Paris avec Charlie Hebdo, et en tout cas ça avait été repoussé. Voilà. Donc en attendant, on peut quand même saluer une fois de plus la volonté de Madame Benbassa et de Monsieur Dezessard. Qui s'était impliqué et investi pour défendre ce projet de loi. Alors on peut reprendre les éléments hein, qu'on a déjà un peu repris dans l'article précédent qui nous venait de l'AFP. Là c'est dans Public Sénat qu'on reprend un peu un certain nombre d'éléments intéressants. D'ailleurs on nous explique pourquoi on dépose un projet de loi comme celui-ci et notamment... Eh bien parce que le système prohibitionniste français coûte 676 millions d'euros pour réprimer le cannabis. Voilà ce que ça coûte. Donc on reparle également de ces 1,2 million d'usagers réguliers. Sur le fait que 42% des jeunes de 17 ans avaient déjà expérimenté le cannabis en 2011. Que dire d'autre, blablabla, enfin bon, toujours à peu près ce qu'on sait, et toutes ces raisons, enfin ces raisons en tout cas, justifiaient, selon Madame Benbassa et Monsieur Desessard, deux sénateurs Europe Écologie Les Verts, ça justifiait donc une proposition de loi visant à encadrer la production et la distribution du cannabis. Voilà. Monsieur Desessard de continuer et d'amender dans ce sens en disant que légaliser permettrait de contrôler le produit, d'assécher les mafias, de faire des économies dans la lutte contre la répression. Ça permettrait même de faire des économies grâce aux recettes, puisque c'est l'État qui serait l'organisateur de la vente de cannabis. Voilà un peu ce qu'il disait. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article là de Public Sénat, c'est que là il y a une déclaration d'une sénatrice UMP, Catherine De Roche, qui dit quelque chose qui irait presque un peu, enfin dont je serais presque d'accord et qui voilà, dont l'avis ou le point de vue est assez proche du mien. Alors, ça se trouve je me trompe, hein. C'est très partiel ce qu'on peut lire dans ce petit morceau de déclaration dans Public Sénat, mais elle dit comme ça, voilà, ce qui est ressorti, c'est que la proposition de loi telle qu'elle a été formulée était peut-être restrictive et que ça devait partir sur un débat plus large, peut-être réévaluer aussi, les propositions faites en matière de contravention pour les jeunes qui étaient pris en situation d'usage de cannabis, comment travailler mieux sur l'éducation thérapeutique, donc contravention pour les jeunes, là je suis pas d'accord, mais travailler mieux sur l'éducation thérapeutique, pourquoi pas, et elle disait, elle ajoute aussi, le réduire à une simple loi avec un article disant on légalise dans certaines conditions des produits à certains dosages, nous paraissait trop restrictif et avec un message brouillé. Voilà. Oui. Je trouve que c'est pas mauvais signe d'avoir un refus sur ces bases-là.
C'est une contraventionnalisation hein, qu'elle propose. C'est pas non plus bonne solution, je le trouve. Hein.
Ouais, moi je me demande si on pourrait pas le comprendre un peu plus largement encore, ces déclarations-là.
Ouais, t'es optimiste. Hein,
ouais,
je pense,
ouais. Hein. Je le suis pas d'habitude, mais là j'ai trouvé que c'était pas si. Enfin, souvent, quand on voit un peu les prohibitionnistes, et qui, pour l'heure, ne sont pas qu'à l'UMP, mais il y en a quand même beaucoup qui sont là-bas, on a toujours un peu les mêmes bêtises hein, qui sont avancées. Hein, des propos extrêmement diabolisants sur le fait qu'on ne peut pas légaliser le cannabis, puisque ça rend les jeunes schizophrènes, ça crée des milliers d'accidents sur la route, patati patata. Et là, on n'a pas ces déclarations-là. Hein, là, on n'a pas ça, quoi.
Non, moi, ce que je retiens souvent, surtout, c'est que le coût de la répression sévère a un coût estimé à 676 millions d'euros, sans parler de l'engorgement des tribunaux, sans parler
je pense que ça vient
de la surpopulation. Ah, je suis pas sûr. Hein.
Ben oui, c'est déjà un peu les...
Je pense que ça, c'est juste les coûts des forces de l'ordre occupées à cette affaire.
Ben, je pense pas, parce que justement, COP et puis... comment il s'appelle, Pierre Kopp et puis l'autre est Ben Lagdar, là, qui ont rendu leurs conclusions dans le rapport de Terra Nova sur ce que ça coûte. Ils incluent ça.
Ils étaient au-dessus, il me semble, justement.
Au-dessus de 676 millions d'euros. Ah, d'accord. Ouais. Bah, peut-être, ouais. C'est vrai que je n'ai pas mémorisé exactement le. Mais bon, en gros, ça, il me semble que ça varie entre 650 millions d'euros et quasiment 1 milliard.
Ouais.
Voilà, si on prend en compte tous les frais induits, en fait.
Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut rappeler ? On peut rappeler qu'on regrette que dans cette loi, ça deviendrait caduque si c'est légalisé, mais qu'on ne puisse pas parler librement du cannabis. Hein, je vous rappelle qu'il est interdit de dire que le cannabis, c'est bon. C'est l'article L34-21-4 qui l'interdit du Code de la Santé publique. Donc ça serait déjà un préambule indispensable à toute discussion sereine dans les assemblées comme dans les médias. Et ensuite, quand on reprend un peu tout l'article, moi j'avais noté 2-3 points qui étaient intéressants, comme par exemple que la légalisation, on n'était pas vraiment décrite, qu'ils n'avaient pas proposé d'aller un petit peu comme l'Uruguay, d'avoir différentes solutions, mais entre autres celle des CSC, qui n'est pas du tout abordée là-dedans. Qu'est-ce qu'on disait aussi d'intéressant, t'avais noté d'autres choses?
Eh ben, en gros, on parle pas d'autoproduction.
Et pas d'autoproduction, fait, hein. Tout à fait. C'est pour ça que je revenais à l'Uruguay, puisqu'il voilà, avait ses trois voix. Puisque, rappelez-vous, dans la proposition de loi en Uruguay, qui a mis un certain temps à éclore, il y a trois choix pour les utilisateurs. Alors moi, ce qui me déplaît dans la loi uruguayenne, c'est que les gens doivent faire partie d'un fichier national. Mais sinon, dans les trois choses intéressantes, c'est un, donc l'autoproduction est autorisée, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est des clubs d'amis qui cultivent ensemble. Et la troisième voie, c'est une étatisation, voire une vente dans les dispensaires de pharmacie. Donc voilà, c'est un panel qui est un peu plus ouvert. En plus, ils font attention à la qualité. Ils empêchent que des trusts multinationaux rentrent dans la production d'herbes et du coup nous fassent encore des produits manufacturés et sans intérêt.
Et de piètre qualité en plus.
Voilà. Faudrait aller voir au Colorado pour pouvoir dire que leur herbe est de piètre qualité.
Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas des multinationales.
Non, c'est plein de petits.
Enfin, il y a quelques boîtes
un peu importantes
qui gèrent ça, mais visiblement ceux qui gèrent ces boîtes, c'est des cannabinophiles.
Oui, aussi.
Même si, après, c'est aux États-Unis, et même si c'est des businessmen, hein, on peut être businessman et amoureux du cannabis. Donc, aimer le cannabis, c'est l'argent.
Tout à fait.
Et aux États-Unis, je pense qu'ils sont pas hypocrites là-dessus. S'encombre pas de principe.
En effet. Voilà. Et puis bon, sur dans le projet de loi, on regardait le taux de THC à ne pas dépasser. Là aussi, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Puisque la nocivité ou la dangerosité du cannabis n'est pas liée à la présence plus ou moins concentrée en THC. Voilà, après, c'est à l'intelligence du consommateur qu'il faut faire appel. Hein, on ne boit pas, on le rappelle, de la même façon un verre de bière ou un verre de schnapps ou d'eau de vie quelconque.
Oui, puis bon, cet argument comme quoi on ne devrait pas dépasser une certaine dose de THC, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on interdit tous les alcools dont le degré d'alcool est supérieur à 20 degrés, par exemple. Ça serait la même chose. Or, c'est pas ce qui se passe. Plus les alcools sont forts, plus ils sont taxés en fait, et plus ils sont chers.
Oui. D'un autre côté, l'alcool est limité à 45, hein. À quelques exceptions près.
C'est déjà beaucoup, non?
C'est déjà pas mal. Mais il y a quand même une limite.
Oui, mais il y a bien des alcools plus forts que 45 en France.
Il doit y avoir
même l'absinthe.
Voilà, il y a 2-3 absinthes et 2-3 liqueurs, mais qui ont des dérogations. Mais c'est vraiment, ouais. À part 3 ou 4, à part l'absinthe et 2-3 bouteilles, c'est 45.
D'accord.
Ce qu'on trouve en supermarché, c'est 45.
Oui, mais enfin, bon, c'est un degré d'alcool important, quoi. C'est pas 20 degrés ou 15 degrés.
Je suis d'accord, mais c'est pas 80, quoi.
Ouais.
Parce qu'on pourrait y arriver. Ça, voilà, ça se trouve pas.
Pas dans les magasins, en tout cas.
Voilà. Et pas pour un usage alimentaire. Si on peut appeler ça un aliment.
Je suis sûr qu'on en trouve. Hein. qui sont. Bref.
Voilà. C'est la question. Hein. C'est pareil. Il y a toujours aussi de l'alcool qui se fait de façon artisanale ou interdite, hein, qui se vend aussi. Mais ça reste des épiphénomènes par rapport.
Ça se retrouve pas dans les réseaux de commercialisation.
Voilà, tout à fait. Ça reste des épiphénomènes. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Il venait autre chose, mais c'est pas grave. Si, ça peut quand même avoir une utilité. C'est non pas pour l'herbe, mais c'est après pour les haschiches, voire certaines huiles, qui, si on les concentre, peuvent être très très fortes. Voilà, je pense que des doses maximum sont toujours utiles. C'est comme, on l'a vu, on en parlait la semaine dernière, sur les gâteaux, où il y a eu quand même quelques accidents au Colorado, avec des gâteaux qu'on laissait traîner, ou et que des enfants prenaient, ou que des gens prenaient ils en prenaient trop, ou plusieurs. Et donc on arrive à certains épisodes un peu...
Il y a de l'éducation à faire, c'est sûr.
Voilà, et donc ils ont pris une autre loi au Colorado, du coup ils ont aussi limité, je crois que c'était 10 mg la dose pour un gâteau, quoi. Si je me souviens bien de tête, hein. Voilà, on passe un petit peu de musique et puis on revient un peu pour...
Ah, un petit truc, je voulais juste finir.
Ah, je t'en prie.
Alors, ça fait partie des quelques revendications du cirque. On aurait peut-être pu le dire plus clairement parce qu'on l'a pas fait quand même. Ce dont on vous parle, c'est quand même un résumé succinct des propositions alternatives qui ont été présentées par le cirque au mois de janvier. Petite chose avec laquelle je suis pas d'accord. Et oui, il faut le dire, c'est parce que c'est pas exact. On dit comme ça que le cannabis c'est pas un problème de santé publique, mais de liberté individuelle. Il s'agit d'un problème culturel, celui d'une société incapable de tolérer les drogues venues d'ailleurs. Là, je suis pas d'accord, c'est un petit détail. Le cannabis n'est pas une drogue venue d'ailleurs en France. Le cannabis est une plante qui a toujours poussé en France. Qui a toujours poussé et qui a même poussé pas très loin d'ici, parce que le Trièves est une région un peu ancestrale de culture du chanvre. Alors on va me dire, oui, mais c'était pas du chanvre indien, hein, c'était pas du chanvre qui était psychotrope. Eh ben, je dis que c'est pas vrai. Voilà. Je me trompe peut-être, mais je prends le risque de me tromper. C'est pas vrai. En fait, on n'en sait rien. Nous, en tant que bénévoles au cirque, on a rencontré des gens à plusieurs reprises, des gens d'un certain âge sur des stands qui nous disaient que leurs grands-parents en fumaient. Voilà. Et ils n'étaient pas importés de Thaïlande ou de je ne sais où. Donc, il y avait en France, comme partout en Europe, je pense, quelques variétés de chanvre qui étaient plus psychotropes que d'autres. Voilà, tout simplement.
Ce qui est sûr, c'est qu'il était pas totalement anodin. C'était pas du moins 0,2% tel que ils essayent de, quoi, ils s'acharnent à trouver des graines qui le font et ils le trafiquent, voilà, ils le croisent pour arriver à rester en dessous des 0,2, mais c'est très très rare.
Voilà. Et je pense que les chanvriculteurs qui cultivaient du chanvre au 19e siècle, ils en avaient strictement rien à foutre des 0,2% de THC imposé par l'Union Européenne.
D'un autre côté, je pense que la plante étant ce qu'elle est, et ayant besoin de soleil, elle était quand même plus titrée au Maroc, ou à l'Himalaya, au Tibet, au Népal, voilà, pour...
Il y a des variétés ruderalis en Europe du Nord, ou dans les contrées tempérées, et qui est un chanvre qui est psychotrope.
Tout à fait. Mais non, mais...
Donc, bon. Si. Ah si, si, si. Non mais parle dans le micro.
Mais voilà.
Tu te trompes, Jérôme. Le ruderalis contient 0,2% de THC.
Non, je sais
pas. Non. C'est des croisements de ruderalis qui ont créé des ruderalis plus puissants, mais le naturel est à 0,2.
Mais je sais pas ce que c'est le ruderalis naturel. Le champ, la nature, elle a pas besoin de l'homme pour se mélanger.
Je
pense que là-dessus, il y a pas de...
Il est originaire du Kazakhstan,
ouais,
au départ.
Des endroits de Russie, ouais.
Voilà. Et selon les études botaniques au départ, il était pas dosé en THC.
Ouais, je suis très sceptique, moi, par rapport à...
Et en plus, il a la particularité de fleurir, pas avec une photopériode, mais à partir d'un certain âge de la plante.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Après, ça s'appelait peut-être pas du cannabis ruderalis par ici, ou même un peu plus au nord, un peu plus à l'est de l'Europe. Si tu veux, c'est comme cette histoire des prohibitionnistes qui disent... Ouh là là, le cannabis aujourd'hui, il est beaucoup beaucoup plus dosé qu'il y a 40 ans. Et alors que ces gens, en fait, ils ont jamais fait d'études sur la puissance du cannabis, ils en ont jamais stocké pour le faire a posteriori. Donc en fait, on le sait pas. On le sait pas.
Ben, voilà. C'est même marqué dans l'ouvrage de Jean-Pierre Galland, Fumée clandestine, où il y a un tableau qui explique.
Que le tableau dans Fumée clandestine de Jean-Pierre Galland, c'est. Faut pas le prendre pour des faits, pour comment dire un fait scientifique absolu, quoi. C'est des choses très indicatives qui ont été mises dans le bouquin de Jean-Pierre Galland il y a 20 ans maintenant et qui sont intéressantes, hein. Je veux dire, mais lui-même qui me l'a dit, hein, d'ailleurs, hein, qu'on pouvait pas tenir compte de ce tableau d'un point de vue strictement scientifique.
Bah moi, je t'invite à aller voir le site Wikipédia sur le cannabis ruderalis et tu trouveras plein d'infos intéressantes.
Qui a écrit l'article sur Wikipédia?
Ah ben, je pense que.
Qui a écrit cet article?
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Ah ben, oui, après, ouais, tu vois, il y a débat, c'est intéressant, quoi.
Ouais, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était fumé, ça.
Et que c'était peut-être pas un ruderalis du Kazakhstan.
Ce que j'ai rencontré de nos aïeuls qui avaient fumé, c'est ils avaient fumé pendant la guerre parce qu'ils n'avaient pas de tabac, par exemple. Donc c'était vraiment pour remplacer, et ils recherchaient pas plus les effets psychotropes, et je pense pas qu'ils étaient très très forts. Alors après, il y a...
Pas être très fort, ça veut pas dire rien avoir dedans.
C'est là que je te rejoins un peu. Mais après, je pense que, y compris au Népal, il n'y a pas des produits qui sont aussi forts que les herbes qu'ils font en Hollande. Rien que le fait de d'ailleurs travailler... d'avoir des centimilia, des 100 graines, ça permet aussi d'augmenter la puissance de la plante. Alors que ça, c'est je crois que c'est quand
même...
Dans
la nature, en général, oui, la plante, elle est plutôt là pour se reproduire, on est bien d'accord.
Voilà, et tu regarderas celle d'en France, donc, qui était cultivée, elles avaient forcément des graines, elles étaient kaffi, parce qu'on la cultivait pour les graines et pour la fibre. Au Maroc, où ils consommaient un petit peu pour l'herbe, ou pour le kiff.
Pour le kiff, oui.
Ils avaient d'ailleurs, ils récupéraient les plantes, les graines avant, quoi. Ils tapaient aussi, donc. Et après, ils gardaient, ils récupéraient la résine et après, ils dépiotaient pour donner le kiff. Donc, c'est très. C'est pas. Je pense que moi, elles étaient moins fortes avant. Et que, tout autant ce qu'on disait, qu'on la trafique pour avoir à moins de 0,2, je pense que on la trafique pour arriver à des taux de plus de 20%. Quoi.
Certes, après, c'est aussi dans Fumée clandestine. Et ils expliquent bien qu'en Thaïlande ou à La Réunion, il y a des herbes très fortes, sans modification, sans manipulation. Hybridation, etc.
Mais à 10-15%, elles sont déjà très fortes. Hein. À 7%, elles sont déjà très fortes.
Oui, ça, j'en sais rien. Après, moi, encore une fois, je pense que ces histoires de pourcentage, c'est très récent qu'on parle de tout ça.
Voilà,
et encore une fois, on ne sait pas. Dernièrement, ils auraient trouvé une variété de cannabis qui supporterait particulièrement bien le froid. Voilà, ils ne l'ont pas trouvé dans l'hémisphère nord, ça aurait plutôt été trouvé en Australie. Bon. Moi, je pense qu'encore une fois, on est loin de savoir tout sur cette plante. Je pense qu'on est bien loin de savoir tout ça. Et que, voilà, en fait, surtout, le plus important, c'est que c'est une plante qui n'est pas arrivée dans les années 60 en France. Qu'elle était connue avant par les gens en France et ailleurs. Et qu'elle était utilisée depuis des centaines et des centaines d'années. Et que on l'utilisait aussi pour ses vertus médicinales, et donc ça veut dire que la plante contenait des agents psychotropes, et qu'il n'y avait pas que dans l'hémisphère sud qu'on connaissait ça. Voilà, c'est tout.
Oui, mais c'est une plante qui s'est développée partout, c'est sûr.
Voilà. Non, mais bon, c'est pas une nouvelle drogue qu'on a amenée. Voilà, c'est ça qui est important.
L'utilisation du cannabis existe depuis des millénaires. Depuis 3000 ans, on en trouve dans la pharmacopée.
Oui, mais ici, y compris chez nous, en France, pas loin de Lyon, il y a France, deux siècles. Oui. Quoi, voilà.
Mais c'était aussi dans la pharmacopée. Mais c'est vrai que je sais pas comment elles étaient utilisées par nos sorcières. Je sais pas, tout ça. Il y a plein de choses. On en trouve pas. Peu de traces quand même. On sait qu'elle a été interdite par un pape au XIVe siècle, donc c'est bien qu'elle existait déjà en Europe.
Oui.
Voilà.
Non, mais bon, c'est important d'insister
sur ce point, et après on va avancer quand même. Voilà, c'est, on n'est pas en face du, comment dire, d'un nouveau produit qu'on veut éradiquer. On est plutôt en face d'une plante qui est intégrée culturellement et dont on a voulu dont on a voulu débarrasser l'Occident de son accointance et de son histoire avec cette plante et cette drogue éventuellement entre guillemets populaire.
Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de nom.
Explique, je sais pas.
Ben, on l'appelait le chanvre et maintenant on l'appelle le cannabis.
Ah, d'accord. Ouais, je pensais que...
Et il y en a qui nous soutiennent que ce n'est pas la même plante.
Oui. Voilà, bon, on va peut-être mettre un peu de musique ce coup-là.
Ouais.
Allez, à tout de suite.
La pièce ressemble à un mâme, illuminé par les flammes. Des briquets quand je suis calme, c'est mon baiser d'Amsterdam. Now I'm touching my brain, going through my vein. Oh, let me sing, insane in my brain. Oula, six la, paf, paf, mais l'on passe. Un monde parallèle, je suis néo dans la triste main. Un fou et c'est pas triste, ma. Moi j'ai laissé mon corps dans le canapé. Des manches dans mon esprit sans me t'échapper. J'ignore le suivant, vraiment c'était érobé. La Marie-Jeanne, madame, fais pas de moi un dopé.
Moi je fume du THC.
De la mañana, me levanté con ganas de fumar un blunt sabor manzana. Pa' recordar lo mío allá en la gran manzana. Ay, de las 12 de la tarde, un vaso de marihuana, un blunt de chocolate. Y en el coma toda la tarde, aunque fume poco, es el blunt de coco el que me pone loco. Solo un poco, a nivel de este mundo, de modo foco. Esta noche yo quiero fumar los night, my man. Pa' ponerme crazy como Ben Laden y hacer la guerra again.
À peine effrété, son parfum m'en tournait. Juste le temps de rouler, allumer, plonger. De j'ai vite parti en fumée. Car je sentais comme un brin détente. Une envie incessante, quelque chose qui me désoriente. Me relaxe, me détend. Alors j'abuse beaucoup, encore trop flou. J'accuse le coup du THC au rendez-vous. Et c'est visible, j'avoue, les yeux rougis surtout. Paraît que c'est nuisible, certains on aura même pété un fusil. Mais je m'en fous, c'est le spliff de trop. J'ai les crocs, résultat effacé. Je suis lâché, proche du chaos. Et ça me plaît, la sagesse oubliée. Et le stress s'effacer, trop cassé. Fais passer.
Et moi je piche plus rien. J'en ai fumé plus d'un, j'suis défoncé jusqu'au lendemain. Et dès que je vois, c'est un C6 corps ferme. Ça annonce mon déclin, donc j'passe la main. Ça kill tout,
ouais, c'est le mien.
J'me prenais pour un colosse, là j'vis bêtement comme un gosse. J'suis dans un trou, dans une fosse. Donc appelle-moi Arsène Ross. Que j'fume le split, c'est sûr que j'suis moins productif. J'm'en fous, je kiffe. Et même si ça vaut une chiffre, ne demande-moi pas de faire quelque chose de concret. La canne et moi, on s'apprécie sur le canapé. Et quand je parle pas et que mes yeux ne font qu'un trait, c'est l'heure pour moi de rentrer me coucher.
Moi je fume du THC. Oui c'est vrai, mais je veux pas mon cliché. C'est la panacée. Si je fume du THC, mais tu le sais, ça gêne la société. Mais bon, la légaliser. Moi je fume du THC.
Thank you.
Vaste débat entre nous sur sur le champ où il est parti, où il a commencé à pousser, pourquoi il est comme ci, pas comme ça. Voilà. Bon. En tout cas, sur le rédéralisme, visiblement, j'ai pu. Semblerait-il, j'ai tort. Voilà. Mais c'est pas grave.
T'es en minorité en tout cas. Je suis en minorité.
Après, voilà, moi, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y en a toujours poussé un peu de partout. C'est une plante qui est populaire, qui a été utilisée par l'humanité à peu près partout pour tout un tas de raisons, et notamment pour faire des cordages, des voiles, parce qu'on se déplaçait beaucoup. Enfin, on se déplaçait sur par mer et il n'y avait pas de moteur.
Et des vêtements aussi.
Et des vêtements, il fallait bien s'habiller, faire des toiles de tente, faire des habits, des sacs, voilà, et le chanvre voilà, servait à tout ça.
Ouais, mais...
Du papier aussi pour écrire dessus.
On en trouve beaucoup, hein. D'ailleurs, dans beaucoup de premières lois sur l'environnement, quand on recherche, c'est des lois sur le rouissage et l'écrouissage du chanvre en rivière.
Oui. Bon, allez, bon. avançons.
Voilà, avec un autre sujet très intéressant. Qui
toujours est, un peu dans le même genre.
Voilà, qui écrit par Olivier Perrin, qui est pris par Libération et par Assud.
C'est Laurent Appel et Fabrice Olivet. Voilà.
Mais moi, je vois pourquoi il y a Olivier Poulain-Perron, je ne sais pas ce qu'il vient de faire là-dedans.
Non, c'est lui qui fait passer le mail à la liste des cannabinophiles. C'est pour ça.
Pardon. Pardon. Assud et tout ça. Donc, c'est réguler le cannabis pour lutter contre l'apartheid à la française. Donc, un article.
C'est une tribune dans Libé. Voilà. De Laurent Appel et de Fabrice Olivet.
La chasse au shit favorise le repli identitaire et ou religieux.
Ah, j'aurais dû enlever ça. En fait, c'était une photo.
D'accord, mais c'est un bon résumé, je trouve, des choses. Et après, donc, ils attaquent un petit peu Malek Bouti.
Ils ont bien raison.
Qui devrait défendre la régularisation du marché du cannabis comme base de restructuration du vivre ensemble. Et c'est une thèse à laquelle j'adhère totalement, qui dit que le traitement du traumatisme actuel oblige à sortir des idéologies qui ont conduit les gouvernements successifs à laisser progressivement la gangrène socio-économique pour ramener la République dans tous nos quartiers. En gros, c'est la prohibition qui a mené nos gouvernements à amener à une fracture de plus en plus importante entre les forces de l'ordre et les forces de l'État, ou l'État en lui-même et les quartiers. Derrière, donc, je continue l'article. Oui, derrière le discours sécuritaire de l'exécutif, le député socialiste Malek Bouti a proposé la mise en sous-tutelle par l'État de certains quartiers sensibles. Donc, du coup, pour ramener la présence de l'État, on ramène l'armée. Je continue l'article. Dans le point, il évoque des élus corrompus qui passent des deals avec des voyous et les communautés par électoralisme. Voilà. Néanmoins, il ne propose plus à la régulation du marché du cannabis comme base de reconstruction du vivre ensemble dans nos ghettos. Nous pensons qu'il est opportun de lui rappeler ses convictions passées. Voilà, donc il rappelle que Malek Bouti, dans une note du 15 juin 2006, il militait à l'époque pour la réforme de la loi de 70. Il la qualifia de ligne Maginot qui prône la reprise du marché par la puissance publique afin de lutter contre la mafia. Et la fin de l'hypocrisie apporterait bien-être et ordre là où la clandestinité et le malaise se sont installés. Voilà, pour Malek Bouti, en 2006, le cannabis est la clé de voûte de la ghettoisation et de l'insécurité dans les quartiers populaires.
Et oui, mais il s'est fait remettre à sa place, Malek Bouti.
Ouais.
Et depuis, on l'entend plus.
Et non.
Je pense qu'à l'époque, il était certainement convaincu de ses propos, hein, mais je pense qu'à l'époque, il s'est dit qu'avec son courage et parler du cannabis, il est certainement entraîné avec lui dans sa course, et que ce qui aurait dû se passer, normalement, en toute logique, hein, Mais ça n'a pas été le cas, puisque, contrairement à ce que croit M. Bouty, le PS n'est pas un parti... j'allais dire, n'est pas un parti de gauche. Mais c'est un vrai faux parti de gauche, en fait. Donc, dans ce parti, il y a des gens qui sont pas bien courageux et visiblement pas très progressistes et pas très informés, non plus pas très conscients de toutes ces choses-là. Et donc il s'est fait... il s'est fait remettre dans le droit chemin, je sais pas comment dire, ou il s'est fait un peu taper dessus. Donc voilà ce que dit un peu, ce que disent un peu les auteurs de la Tribune. Ils disent voilà, même des notables socialistes le stigmatisaient comme Malek Bouty, vous savez, mais si, vous savez, c'est celui qui veut mettre le hashish en vente libre. Donc voilà, au sein du PS, ben, il est tombé sur des gens. Visiblement pas très très bien intentionné et complètement désinformé et assez malhonnête intellectuellement, moi je trouve, je dirais même. Et donc il a été victime d'une chasse aux sorcières qui s'abat sur les politiques qui osent se prononcer en faveur d'une réforme du statut légal du cannabis. Manuel Valls et Marisol Touraine participent aussi à cet exercice délétère. Ouais. Voilà.
Voilà, il continue d'être sur l'adage de Mitterrand... les drogues, où on n'en parle pas, ou sinon...
Il faut hurler avec les loups. Voilà. Voilà. Faut aller
dans le sens de la...
Faut moutonner. Voilà.
Alors qu'une bonne prévention sur toutes les drogues, sur l'alcool, sur le tabac, sur le cannabis, serait beaucoup plus utile, et on voit que les résultats d'ailleurs sont bien meilleurs avec la prévention qu'avec la répression.
Voilà, donc en gros, bon, ils continuent, ils disent la classe politique doit sortir de l'émotionnel et de la stratégie de communication pour analyser la situation. Le gouvernement a besoin de moyens humains et financiers pour lutter contre le terrorisme et les gangs. Il a besoin de restaurer le dialogue entre les institutions et les jeunes. Il a besoin de rétablir une atmosphère vivable dans les quartiers soumis à une guerre du cannabis à coups de Kalachnikov. La régulation publique apporterait des réponses assez problématiques. Faut sortir de la doxa prohibitionniste, et il parle de la Seine-Saint-Denis, qui est en tête des infractions sur les stupéfiants. Alors qu'en fait, la Seine-Saint-Denis ne figure qu'à la 42e place de l'enquête Escapade 2008 sur les jeunes de 17 ans déclarant consommer du cannabis au moins 10 fois dans le mois. Donc ça veut dire que c'est pas du tout un endroit où, a priori, les jeunes, en tout cas, se déclarent consommateurs, mais plutôt en milieu de peloton des départements, finalement. Mais par contre, la chasse à la boulette de shit, autant que les points fixes de deal, pourrissent la situation et favorisent le repli dans la distinction identitaire et ou religieuse. Comme l'affirme la campagne « Guerre aux drogues, guerre raciale », nous sommes tous concernés par cette question. La guerre aux drogues n'est-elle pas aussi une guerre aux banlieues, aux minorités, une guerre raciale? On se pose toujours la question aujourd'hui. Aux États-Unis, ils ont déjà apporté la réponse. Le député de l'Essonne ne serait pas aussi isolé qu'il semble le croire. Le récent rapport du think tank Terra Nova plaide pour une régulation du marché et des chercheurs du CNRS et de l'EHESS ont récemment publié des analyses convergentes. La proposition de loi de la sénatrice Benbassa autorisant l'usage contrôlé du cannabis est examinée en février, on a vu ça. Le rapporteur sénateur Jean Desessart, rapporteur de la proposition, vient d'auditionner un panel très représentatif, dont le cirque. Il n'a pas oublié, comme souvent, de convier les organisations d'usagers. Voilà. Et il dispose des informations nécessaires pour proposer des améliorations au texte et actualiser notre modèle de 2006. Nous appelons Malek Bouty à porter ses travaux devant l'Assemblée nationale, quel que soit le résultat au Sénat. Le gouvernement doit sortir de la doxa prohibitionniste pour privilégier une mesure indispensable au rétablissement de la République dans tous ses territoires.
Voilà, c'est signé par Laurent Appel et Fabrice Olivet.
Ouais. Et effectivement, Malek Bouty, on n'en entend plus parler. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait au PS maintenant, mais... En tout cas, il l'ouvre plus, et en tout cas pas sur ce sujet. Voilà. C'est pas mal de lui rapporter ça, parce qu'effectivement, Bouty, quand il avait quitté SOS Racisme pour arriver au PS, il ne parlait quasiment... Enfin, on l'entendait beaucoup là-dessus, il en parlait publiquement, et je trouvais ça super bien, et qu'en plus, ça se fasse dans le cadre d'un passage SOS Racisme PS. Voilà. Moi, on a rencontré avec le cirque
pas mal de fois des gens d'SOS Racisme et le fait que pénalisation des drogues et racisme soient étroitement liés, c'est un élément qui, chez eux, est en tout cas aujourd'hui complètement ignoré. Mmh. Et c'est bien dommage.
Oui, bien tout dommage. À fait. D'ailleurs, je pense qu'on a raté un bon événement l'année dernière avec la marche... La marche contre le racisme, je pense que en plus on était, voilà, c'était un moment où on aurait peut-être pu faire quelque chose.
Ouais. C'est... Peut-être, oui. Je suis pas persuadé qu'ils comprennent le lien, en tout cas, malheureusement. C'est pourtant, ça qui est triste.
Pourtant, aux États-Unis, le lien est fait depuis longtemps, hein, que la guerre à la drogue est une guerre raciale. Elle est démontrée pour tous les produits et pour toutes les immigrations successives. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, ce qu'il faut rappeler, c'est que les consommateurs sont uniformément répartis quasiment, qu'ils soient blancs, maghrébins, noirs ou autres, tout le monde fume à peu près de la même façon, 5% de la population, grosso modo, utilise du cannabis, et cela aussi, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le métier, quel que soit... le niveau d'études, et encore si, le niveau d'études, ceux qui ont plus étudié fumeraient plus.
Oui.
Avec un bémol, mais c'est les chômeurs qui fumeraient plus que les travailleurs. Il y a des trucs comme ça, mais ça joue sur la marge, globalement, tout le monde utilise. Un petit peu. Quel que soit le milieu. Et pourtant, dans les prisons, il n'y a principalement que des gens issus de l'immigration, ce qui est surtout dans les simples même dans les simples consommateurs, ce qui est totalement anormal par rapport au pourcentage, parce que y compris les dealers sont aussi blancs. Il y en a aussi autant que les autres. Les Français dits de souche, là, par exemple, il y a aussi des dealers. Il y en a la même proportion que dans les autres communautés ou qu'ailleurs. Et pourtant, ils sont beaucoup moins représentés en prison, ce qui est totalement injuste. Et donc, même si la loi n'est pas raciale en tant que telle, son application, en tout cas par les forces de l'ordre, l'est totalement.
Exact. Bien. Est-ce qu'on a le temps de passer encore un tout petit peu de musique ?
Ouais, je sais pas.
Il nous reste 7 minutes.
On va peut-être s'en attaquer un autre. On va essayer d'aller plus vite.
Eh bien, essayons.
Le Parisien avec le cannabis médical. Voilà, le débat est lancé alors que le premier médicament à base de cannabis doit bientôt arriver en pharmacie. Entre les partisans d'un usage pour les maladies et les antiques qui redoutent une banalisation de cette drogue. Voilà, donc un article de Christine Mathéus. Elle rappelle qu'il y a déjà dans 17 pays... Et là, il devrait y avoir le spray qui arrive aussi.
Le Sativex.
Je me trompe, le Sativex, oui.
Voire même, il est déjà arrivé. On le sait, puisque on connaît quelqu'un qui... Enfin, toi, tu connais quelqu'un qui...
Tout à fait.
Qui a pu en avoir, depuis la fin de l'année dernière.
Comme beaucoup de médicaments, au départ, ils ne sont pas distribués dans les pharmacies, ils sont distribués dans les hôpitaux ou
D'accord.
des choses comme ça.
Oui.
Notamment, pour les antidépresseurs, c'est comme ça. Les nouveaux antidépresseurs qui arrivent sont distribués d'abord dans les CMP, par exemple.
Oui, c'est un peu normal, ouais. Ça me paraît logique. Et puis, ce que tu disais, là, c'est que pour le Sativex, la personne que tu connaissais, elle avait eu dans le cadre d'une ALD, en fait.
D'une ALD, tout à fait.
Une affection longue durée. Donc, bon, c'est... Mais bon, voilà, donc, sa distribution un peu plus... à plus grande échelle, en tout cas, devrait être pour cette année. Si vous n'avez pas signé une ALD, il semblerait que le médicament ne soit pas remboursé par la Sécu. Et soit assez cher. Par contre, l'info, c'est que si on vous prescrit du Sativex dans le cadre d'une ALD, visiblement, c'est pris en charge par la Sécurité sociale.
Tout à fait.
Ça, c'est
tout
bon signe. Fait. Parce que c'est un peu ce qu'on craignait il y a un an et demi, quand on a commencé à parler du Sativex. C'est ce qui se disait, c'est cool, là, mais ça sera pas remboursé par la Sécu. Visiblement, ça peut l'être. Voilà.
D'accord.
C'est plutôt bon signe.
Voilà, sinon qu'est-ce qu'on voit dans cet article ? On rappelle que c'est une plante qui était quand même vendue en pharmacie jusqu'en 1953.
Qui était vendue en pharmacie, qui était vendue sous la forme de cigarettes.
Ouais.
possible.
De cigarettes indiennes au cannabis de la marque de la société Grimaud contre les affections respiratoires jusqu'en 1953.
Tout à fait.
Voilà. Et entre... Alors c'est résumé,
il était aussi très vendu comme antidouleur.
Voilà. Alors bon, ce qui est expliqué très résumé, très succinctement, mais de manière assez intéressante, c'est que entre 1925 et 1953, au travers de 6 conventions internationales signées, toutes ont visé à renforcer la prohibition de l'usage et à faire disparaître des... comment dire, des étals d'apothicaires, de pharmaciens, toute forme de cannabis, en fait. Et puis après 1961 et 1970, sa prohibition totale. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas une plante qui est arrivée comme ça dans les années 60, mais il y a eu un travail politique et juridique en visant à son éradication et à sa, et au fait que on soustrait à, aux individus la mémoire de ce que pouvait être la plante. Voilà, ça c'est ça en fait. On a fabriqué l'amnésie des Françaises et des Français.
Mais d'ailleurs, on n'a pas les interdits de chambre, on a interdit le cannabis. C'est bien ça. Tu sais, c'est même avec le nom, c'est très pervers.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Ça va très très loin. Et d'ailleurs, ça a été le même phénomène aux États-Unis. Donc, c'était pas la marijuana. C'était avant, c'était le the hemp.
Hemp, hemp, ça veut dire chambre.
Voilà. Donc, c'est la marijuana qui a interdit.
Et on a appelé ça marijuana, ouais, parce que ça, c'était le terme qui était employé par les Mexicains, les immigrants mexicains.
Tout à fait. Exactement. Non, mais voilà, c'est le. C'est bien ça, on est bien dans le sujet, totalement.
On est d'accord. Donc, autre chose pas inintéressante dans cet article, on nous parle du marinol, donc un autre. Médicament à base de THC de synthèse. Qui déjà peut être prescrit. Alors, on nous ressort les fameuses autorisations temporaires d'utilisation, contraignantes pour les médecins sur le plan administratif et pas facile à demander et à obtenir pour les malades. Il n'y en aurait qu'une centaine qui en auraient obtenu depuis 2001. Voilà. Bon. On verra. On verra. Ah, sinon, si. Alors tu vas me dire ce que t'en penses. Après, je sais pas si c'est vrai, mais... Alors, on nous dit que le sativex est un mélange de deux composants de la plante, du THC et du cannabidiol.
Tout à fait, oui.
Dans le sativex. Et on nous explique que les effets du cannabidiol annulent les effets psychotropes du THC.
Je peux le confirmer.
D'accord.
Parce que j'ai vu un interview sur une chaîne de télé, je ne me rappelle plus laquelle, malheureusement, où une ancienne infirmière témoignait pour sa sœur qui était malade et à qui on avait donné du marinol. Et le marinol, elle ne pouvait pas l'ingurgiter parce que c'était très très mauvais à ingurgiter. Elle avait des problèmes déjà pour pouvoir manger. Et après, elle a essayé le sativex et il paraîtrait, alors moi je ne peux pas l'affirmer, c'est l'infirmière qui disait ça, l'ancienne infirmière, que le sativex, le taux de THC et de CBD sont équilibrés, ce qui fait qu'on ne ressent pas d'effet psychotrope.
Ah oui, ils sont équilibrés. Mais ça ne veut pas dire que le cannabidiol annule les effets du THC.
Ça les baisse.
Ça les pondère.
Ouais, c'est ce qu'elle expliquait. Enfin, elle disait que ça régulait.
Ouais. Voilà. Non, mais en fait, je demande ça, tu vas comprendre pourquoi. Parce que il existe des variétés de cannabis qui sont à la fois fortes en THC et fortes en CBD, mais le CBD n'annule en aucun cas les effets du THC.
Ben ouais, c'est justement ce qui est bizarre.
Donc voilà, c'est pour ça qu'en lisant ça, je me suis dit encore une fois, je suis pas certain que ce soit bien exact ce qui est dit là.
J'ai eu deux sources pour cette chose-là, mais je suis d'accord avec ce que tu dis.
Moi, je pense qu'il y a plutôt une recherche.
Le CBD, c'est le cannabidiol, hein.
Cannabidiol, oui.
Le CBD.
Et là, tu parles du cannabidiol.
Non, je parle bien du cannabidiol, du CBD, oui.
D'accord. Autant pour moi.
Voilà, mais je pense que. C'est pas qu'une question de telle plante qui annule les effets de l'autre. Je pense que justement la plante elle est un peu réglée. Ils ont certainement, ils ont fait ça en labo, et donc ils ont mis une égale proportion ou des proportions qui font que. Mais Voilà. Tel que c'est écrit là, c'est un peu pas, à mon avis, c'est pas très exact.
Ouais, enfin, voilà. Pas très clair du moins.
Pas très clair, ouais. Non, oui, parce que, ben, tout simplement, encore une fois, voilà, il y a des variétés qui sont assez fortes en THC et en CBD et qui sont psychotropes.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, et qui conviennent à des malades, justement.
Aussi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le CBD qui convient pour les maladies,
ben non,
le THC aussi.
Et oui,
ça dépend de la pathologie,
et tout à fait.
C'est bien ce qu'il faut dire.
Tout à fait. Il y a des pathologies sur lesquelles le CBD n'a aucun intérêt, le THC en a, et puis d'autres c'est le CBN, et ainsi de suite.
Tout à fait, oui.
Voilà. Bon, et il est l'heure. On n'a pas fini de parler de tout ce dont on voulait parler... c'est un peu dommage. Alors du coup, vite, on peut quand même dire que il y a eu un article là dans, alors c'est Talking Drugs, un journal sur Internet très intéressant, y compris en français où on apprend beaucoup de choses sur l'actualité internationale du cannabis et des drogues. Et donc là, on nous redit à nouveau que au Mexique en tout cas, il y a vraiment une intention du pouvoir politique de légaliser le cannabis. Voilà, on nous dit que ça pourrait être l'étude de la légalisation pourrait être étudiée dans un futur assez proche par son pays. C'est l'ambassadeur Jorge Montaño qui déclare ça et qui l'a dit aux Nations Unies. Donc c'est pas des propos en l'air. Voilà, il voit ça aux alentours de 2016 éventuellement ou un peu après. Donc à suivre, hein, ça pourrait être intéressant. Et pour terminer, voilà, on vite fait, hein, l'Indonésie, il faut absolument le dire avant qu'on termine, hein, 6 personnes, dont 5 étrangers, ont été exécutés en Indonésie pour trafic de drogue. Pourquoi ? Alors, c'était déjà le cas avant, hein, c'est pas nouveau, c'est pas parce que justement il y a eu ce nouveau président qui a été élu fin octobre, monsieur Joko Widodo. Avant, il y avait déjà des gens qui étaient condamnés à mort en Indonésie. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et encore une fois, il faut le dire, il faut le rappeler que si dans ce pays qu'est l'Indonésie, et si aussi dans d'autres pays, il y a des exécutions à mort pour des histoires de drogue, si ces pays ont voté ces lois, c'est sous la pression de la communauté internationale, et notamment de la France et des États-Unis. Pour que ces pays-là, soi-disant pays producteurs, aient des lois particulièrement sévères pour punir l'usage ou la production ou le trafic dans ces pays-là même, en fait. Et ce qu'il se passe, eh bien, c'est que beaucoup des individus qui sont arrêtés, poursuivis et condamnés, parfois même à mort, beaucoup sont des Occidentaux. Voilà, c'est triste, mais c'est un peu un retour de bâton. Alors bon, parfois, il y en a... ils les exécutent pas parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du soutien derrière. C'était un peu le cas de Michael Blanc. Et là, c'est un autre scandale. Hein. C'est-à-dire qu'on les garde en vie et puis on les met dans des prisons. Et puis, ben, comme la famille est là et il y a un peu du soutien, tout le monde en profite dans la prison, quoi. Tous les gardiens sont payés à coup de bakchiche. Voilà, ça fait provoque une manne financière pour les surveillants, les villages autour. C'est une réalité aussi, c'est vraiment lamentable, mais ceux qui sont à l'origine de ces problèmes, eh ben, c'est les Occidentaux, c'est les États-Unis et la France qui sont malheureusement, alors pour les États-Unis c'est en train de changer, mais à la pointe du prohibitionnisme international. Voilà, on va se quitter là-dessus, Chasseur de son n'est pas là, et ben...
Juste une petite chose.
On peut encore parler un petit peu. Alors,
J'ai oublié de citer tout à l'heure le morceau que j'ai passé.
Ah bah oui.
Et donc je voulais réparer la petite erreur. Il s'agissait du groupe Sous la Surface et le titre était THC.
Voilà. Donc bah, c'est la fin de Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. cirque-lyon@node-log.org, c'est notre email. Vous pouvez nous envoyer un petit courrier postal si vous voulez adhérer ou réadhérer. D'ailleurs, c'est l'époque, hein, parce qu'on est début de l'année 2015. Vous pouvez nous écrire à Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne, CEDEX. Vous pouvez nous appeler au 06 11 53 10 07. Vous pouvez également visiter notre site internet régulièrement actualisé avec nos communiqués de presse, des infos. sur les stands qu'on peut tenir à droite ou à gauche, www.cirque-lyon.fr, www.cirque-lyon.fr. Eh bien, nous nous quittons maintenant. Chasseur de son n'est pas là, mais c'est pas grave. C'est quand même la fin de Cannabis Circus. Nous vous souhaitons une bonne soirée à toutes et à tous. Petite va-t-il arriver en courant ou en volant? Je sais pas. Voilà, donc c'est la fin de Cannabis Circus. On se retrouve la semaine prochaine, 21h, 22h, pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité. Et à la semaine prochaine, au revoir.